Técombe, bon voisin. Première partie. Chapitre 1. Le vrai nom du père Félix, son nom de citoyen électeur, inscrit tout au long dans les registres de l'état civil, était Félicien Aimé Désiré Vadien, mais on l'appelait ordinairement Félix Vadien, et jamais homme ne fut mieux nommé. La nature l'avait doué d'une bonne humeur à toute épreuve, que 60 ans de vie dure n'avaient pu altérer. Philosophe sans le savoir, il attendait fort peu de l'existence et en accueillait les moindres bienfaits comme une chance inespérée. Ce n'était pas de lui-même qu'il était satisfait, mais des autres. Il avait un don, pareil à ces baguettes magiques de coudrier qui révèlent les trésors enfouis pour découvrir chez son prochain une foule de belles qualités. Et sa bienveillance n'était pas un contentement banal, à fleur de peau si je puis dire, c'était une large bonté qui se répandait aisément. La vie ne lui avait pas été tendre cependant. Simple ouvrier de campagne, d'un printemps à l'autre, il labourait et bêchait la terre d'autrui d'aussi grand cœur que si elle eût été la sienne. À force de travail et d'épargne, il avait acquis un tout petit domaine, une maisonnette, un jardin minuscule, un champ de pommes de terre et un coin de prairie pour sa chèvre. La joie de se voir propriétaire lui avait donné comme une seconde jeunesse. Quand il se promenait dans ses domaines, sa haute taille un peu courbée se redressait, il arrachait ici et là une mauvaise herbe, considérait avec intérêt chaque pierre de son mur et fumait sa pipe, plus heureux que le roi d'Yvetot. Sa petite fille Cécile tenait son ménage, car sa femme était morte depuis bien des années, lui laissant une enfant unique, une fille dont il n'aimait pas à parler. Il pensait à elle chaque jour cependant, et croyait l'entendre parfois lorsque Cécile, qui était une vraie fauvette, chantait l'été dans le jardin ou l'hiver à son rouet. Sa mère aussi était toujours à gazouiller, murmurait-il, mais le temps des chansons était court pour elle. À 20 ans, rieuse et jolie, elle avait épousé son cousin, un beau contrebandier du nid du Folle, qui l'avait rendue fort malheureuse. Bientôt, lassé de la vie conjugale, il avait abandonné femme et enfant, et l'on avait appris qu'il s'était embarqué pour la Californie afin d'y chercher les aventures, plutôt encore que de la fortune. La jeune femme délaissée voulait se consoler et vivre pour sa petite Cécile, mais le chagrin, plus fort que son courage, l'emporta vite. Et le père Félix resta seul avec la dernière de ses 3 Céciles, comme il disait, car sa femme et sa fille avaient déjà porté le même nom. Il la gardait comme un trésor et ne souffrit jamais qu'on la séparât de lui un seul jour. Des voisines bien intentionnées voulaient se charger de l'enfant pour que le grand-père pût vaquer plus librement à son travail, mais il s'y refusa. La petite avait 2 ans et demandait peu de soins. Félix, chaque matin, l'emportait avec lui dans la hotte où il mettait ses outils. Cette petite tête blonde, qui, de là-haut, promenait sur le monde des yeux ravis, fut bientôt connue de toutes les fermières. Quand il pleuvait, un grand parapluie de coton rouge s'ouvrait comme un dôme sur la bambine qui, pelotonnée dans son étrange palanquin, poussait de petits gloussements de joie en étendant sa main potelée sous les gouttières. S'il faisait beau, elle se penchait au bord de la hotte comme un oisillon au bord du nid. Elle caressait de ses petits doigts les joues bronzées du grand-père ou bien lui tirait doucement les cheveux et quand il feignait de la gronder en prenant une grosse voix, elle se renversait pour rire aux éclats, puis se blottissait tout au fond de son nid. « Coucou » criait-elle. « Elle est comme vous, père Félix, toujours contente !» disaient les voisins. « Heureusement » faisait-il. Car, à cause de sa pipe qu'il avait toujours au coin de la bouche et dont il tirait régulièrement une bouffée avant de parler, il écourtait ordinairement le premier mot de son discours. « Heureusement !» faisait-il en tournant la tête pour apercevoir sur son épaule la petite mine rieuse de sa Cécile. « Elle n'aura guère que sa gaieté pour dot, cette bambine-là. Après ça, pourquoi se plaindre quand on a la santé et que les pommes de terre poussent toutes seules comme des plantes du bon Dieu qu'elles sont ? Va bien, va bien !» Arrivé au champ où l'attendait sa tâche, il faisait descendre Cécile de son palanquin, puis étendait pour elle un vieux manteau sur l'herbe. Elle restait là toute seule pendant des heures, jasant joyeusement et se racontant des histoires, jouant avec les petits cailloux et les grillons ou les scarabées qui passaient près d'elle. Parfois, elle les suivait dans leur voyage jusqu'au bout du champ, mais un veau, qui de l'autre côté du mur la regardait de ses yeux placides, ou le coq, en dressant sa crête, la mettait bien vite en fuite et elle revenait tout émue de ses grandes expéditions. Parfois, elle trébuchait sur une pierre et tombait de tout son long. Comme personne n'était là pour s'apitoyer, elle se consolait vite et soufflait elle-même sur le bobo. Quand le temps était mauvais, son grand-père la portait dans la grange où elle effarouchait les chats et riait de leurs sauts périlleux. Elle ne s'enrhumait jamais, n'avait point de caprice et tendait sa petite joue à baiser à tout venant. Chacun l'aimait, à cause de son grand-père d'abord, et aussi pour sa grâce enfantine et sa gaieté. La fermière avait toujours une tranche de sèche aux œufs, une pomme rouge à lui mettre dans la main. Quand Félix repartait pour le nid du fol, la semaine d'œuvre finie, et que Cécile était déjà installée sur son dos, on se rappelait tout à coup qu'on avait dans une armoire certains petits jupons qui lui iraient à merveille, ou un petit tablier blanc pour la faire belle le dimanche. « Apportez-moi le linge de votre petiote, » disait-on au grand-père. « Nous faisons la lessive la semaine prochaine, on vous blanchira ça. » Ainsi l'enfant s'élevait, entouré de bienveillance, et chaque soir, son grand-père, en la prenant sur ses genoux, s'écriait « Comme tu grandis, mamie !» Les années s'écoulèrent. Elle semble, à la campagne, s'enfuir plus rapidement qu'ailleurs. Chaque saison glisse sans bruit et s'éloigne, tandis qu'une autre s'avance discrètement, avec des gradations aussi infinies que les teintes ondoyantes des moissons ou les nuances changeantes des prés, où la pourpre des esparcettes remplace peu à peu la blancheur des grandes marguerites. On laboure, on sème, on moissonne, et sans y penser, on parcourt une fois de plus ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramène dans nos plaines ce que Cérès nous donne. Pour lui-même, le père Félix ne songeait guère à la fuite du temps, mais il voyait grandir la fillette qui venait bien comme une belle jeune plante pleine de sève. « Turellement, ça pousse cette jeunesse, disait-il. Ça met les vieux à la porte, n'est-ce pas, Cécile ? Les enfants des pauvres, voyez-vous, ça s'élève tout seul, que c'est une bénédiction. Si le berceau est en sapin et la bouille un peu grossière, du moins, ils ont bon sommeil et bon appétit. Il y a des compensations partout, je vous dis. Le bon Dieu n'a pas fait les choses si inégales qu'on le croit. Comme monsieur le curé le disait l'autre dimanche, le contentement d'esprit est un grand gain et chacun peut en avoir sa part. Qu'avez-vous à soupirer comme ça, madame Renaud ? Cet embarras de richesse qui vous tourmente, bien sûr. Vous vous demandez si le notaire a placé vos fonds en sûreté, si la surlangue visitera point vos vaches cette année, si les fromages se vendront aussi bien que l'automne passé. Non pas que je veuille dénigrer les gens mieux emplumés que moi, ajoutait le brave homme. Je ne ferai pas fi d'un petit domaine pour nous deux et pour Cécile après moi. Mais la fortune n'est pas ma marraine, et quoi que ça, je suis content. » On l'écoutait volontiers, ce philosophe à barbe grisonnante, que les soucis des autres seulement, et non les siens, avaient le pouvoir de chagriner. « Ah, vous avez bien raison, père Félix, murmurait-on. » Puis madame Renaud songeait que ses poules avaient cessé de pondre de très bonne heure cette année, que la provision d'œufs ne durerait pas jusqu'au printemps, que la barrière du poulailler s'en allait latte après latte et qu'il faudrait la refaire. Et madame Renaud soupirait de plus belle. Le tisserand, lui, qui venait d'apporter une pièce de toile à la fermière et buvait un verre de vin avant de se remettre en route, racontait que son fils tirerait au sort l'an prochain. On n'avait pas de quoi le racheter, comme vous pouvez croire. Faudrait bien en passer par là. Car pour un bon numéro, où est-ce qu'il loge ces bons numéros ? Jamais personne de la famille n'en a attrapé un. Ah, la vie, ce n'est déjà pas si gai. Chacun n'a pas votre recette pour voir tout en rose, père Félix. Ma recette, je vais vous la donner tout droit, et bien aisée qu'elle est, vous verrez. À côté de vos malheurs, comptez donc un peu vos petits bonheurs. Pour sûr, la balance penchera encore du bon côté. Les petits bonheurs, je dis. Les grands, c'est plus rare. C'est comme qui dirait les gros écus, les Napoléons bien reluisants. On n'en a pas plein ses poches, mais la petite monnaie, est-ce qu'il faut la mépriser? Attendez que je vous aide à compter, Clézide. Voilà vos enfants qui viennent bien. Tous des garçons, la conscription nous les prendra. Pas encore tout de même. Et puis, vous avez la santé, un métier qui marche, pas de concurrence dans le village. Vous m'en direz tant que je vais me croire un milord, faisait le tisserand. C'est bien le moins qu'on ait la santé, pardi. Si le père Félix prêchait au désert quand il s'adressait à ses voisins, du moins avait-il transmis à sa petite fille tout l'heureux optimisme de son caractère. Joyeuse, c'est ainsi que la fillette fut bientôt nommée dans tout le village. Devenue grande laide, elle continuait à accompagner chaque jour son grand-père. Et tandis qu'il travaillait au champ, elle, dans la maison, mettait la main à toutes sortes de besognes sous la direction de la fermière. Elle apprit ainsi à traire, à battre le beurre, à coudre aussi et à faire la cuisine. L'automne, elle devenait bergère et courait tout le jour après ses vaches dans les prés mouillés en chantant comme une alouette de l'aube jusqu'au soir. L'hiver, si l'on voulait engager le père Félix pour les longues semaines du battage en grange, on savait qu'il ne viendrait pas sans sa joyeuse, et la paysanne tirait de l'armoire des bas troués, des draps que la dernière lessive a mis hors d'usage, car à l'école des sœurs, que Cécile fréquentait par échappée, elle avait appris à faire de merveilleuses reprises et presque du neuf avec du vieux. Assise près de la fenêtre, derrière laquelle s'entassait la neige, cette gentille ouvrière de 14 ans ravaudait, taillait, ourlait, tout en écoutant les grands coups de fléau cadencés qui ébranlaient la grange. « Quelle femme bras il a encore, ce cher grand-père !» se disait-elle. « Pas moins, il faudra qu'il se repose l'hiver prochain. » Le soir, si le temps était beau, tous deux faisaient ensemble, la main dans la main, une petite promenade le long des chemins durcis par la gelée. Ils avaient mille choses à se conter et l'on entendait de loin le rire frais de joyeuse. Puis on rentrait. Elle allait dormir avec les filles de la maison et son grand-père montait dans la chambre des ouvriers. Félix va bien, approché de ses 70 ans. Devenu propriétaire, comme nous l'avons dit, il cessa d'être journalier et prit des habitudes très sédentaires. Cette vie roulante, ça ne convient pas à ma fillette, disait-il. Elle s'accoutume à entendre des propos et à y répondre. Je ne la voudrais pas trop dégourdie. D'ailleurs, elle a maintenant de la besogne à la maison. À la maison. Félix va bien prononcer ces trois mots 50 fois par jour. Il les tournait dans sa bouche et leur trouvait un goût délicieux. Cependant, à son âge, on se plie malaisément à des habitudes nouvelles. Si ce n'avait été pour Cécile, le grand-père aurait continué jusqu'au bout son pénible métier, satisfait de pouvoir dire « ma maison, mon domaine » et de savoir sa fillette bien pourvue. Mais elle devenait grande et trop jolie pour continuer à courir le pays. D'un autre côté, bien que la sachant sage, il ne voulut pour rien au monde la laisser seule au logis. Elle va sur ses 18 ans, disait-il à Madame Renaud, la confidente ordinaire de ses perplexités. Ça commence à songer au mariage un tantinet, tout au moins à la danse et au beau gars. On n'aurait qu'à me l'enjôler, la pauvrette. Non, c'est assez d'un contrebandier dans la famille. Je ferai bonne garde pour lui épargner du chagrin à ma joyeuse, car sa mère a pleuré pour deux. Jamais duègne ne fut en effet plus vigilante que ce grand-père. Il accompagnait Cécile dans toutes ses courses. Si elle allait voir ses amis, il accompagnait et la ramenait lui-même et ne passait jamais la veillée au cabaret, mais toujours auprès du roué de Cécile. Cette surveillance incessante, cette sollicitude de chaque minute, ne déplaisait point à la jeune fille. Qu'aurait-elle voulu cacher à son grand-père ? Il avait toutes ses confidences, comme aussi toute son affection et tout son respect. D'ailleurs, il n'était point sévère. Le blâme sur ses lèvres était rare. Dans la maison, il la laissait régner et lui épargnait toute besogne pénible. Et puis, il me conte mille histoires, disait Cécile à ses amis, quand celle-ci la plaignait d'être gardée à vue et de passer presque toutes ses soirées en tête-à-tête avec un vieux. Il a vu du monde, mon grand-père. Il sait des choses intéressantes qui donnent à réfléchir. Ce n'est pas comme vos garçons du village qui ne font que bêtiser. Tu changeras d'idée, joyeuse, répondaient les jeunes filles en riant. Tu changeras d'idée. Mais elle secouait la tête et, tout en faisant tourner vivement son rouet, elle chantait de sa voix claire. C'est dans les heures de paresse que le cœur s'ouvre au mal d'amour, que la quenouille soit maîtresse, elle le chasse pour toujours. Dans son nouveau domaine, Cécile déploya de grands talents de ménagère. En vraie paysanne, elle avait l'amour de la terre et le lopin de pré qui leur appartenait lui semblait le plus vert de toute la commune. Elle aimait sa chèvre, ses poules, son jardin, ses laitues. Elle semait du réséda sous ses fenêtres et ne sortait jamais sans en avoir un brin à son corsage. C'était avec un intérêt palpitant qu'elle surveillait l'éclosion de ses graines comme celle de ses poulets. Une fleurette qu'elle aurait à peine remarquée dans le jardin de Madame Renaud lui semblait admirable dans sa plate-bande si elle était épanouie par ses soins. Cependant, elle ne disait guère « notre maison », mais plutôt « la maison de grand-père », par une délicatesse inconsciente, voulant bien marquer que si elle vivait maintenant dans l'aisance, c'était grâce à ce labeur persévérant du vieillard. Ce nom gagna si bien la faveur qu'au bout de quelques années, la petite ferme de Félix Vabien s'appelait dans tout le pays « la maison du grand-père ». Elle conserva cette appellation longtemps après que le vieillard eut quitté son toit pour s'en aller dans sa dernière demeure. Néanmoins, Joyeuse voyait bien, parfois, que cette vie trop paisible et casanière pesait à l'ancien journalier. « Quand prendrons-nous nos vacances, grand-père ? » demandait-elle alors. « Les Renaud voudraient bien vous avoir pour les foins, je parie. Nous autres, nous n'avons pas grand à faucher. » Quand nous serons prêts, voulez-vous que nous partions? Ça vous rajeunira, grand-père, en vous faisant penser au temps où vous me portiez chaque matin dans la hotte. Je te porterai bien encore, va, disait Félix en redressant sa haute taille. Grâce au bon Dieu, on a encore les reins solides. Ça y est, fillette, aussitôt notre foin rentré, en route pour la vie roulante, encore une fois. « Mais promets-moi que tu ne te laisseras pas compter fleurette par les garçons Renaud. »« Foi de joyeuse !» répondait-elle en riant. « D'ailleurs, comme ils sont protestants, monsieur le curé se fâcherait. » Le grand domaine des Renaud était situé sur territoire neuchâtelois, dans la commune de la Brévine, et à 2 heures seulement du nid du Folle. Isaac Renaud était un homme sévère, mais équitable dans toutes ses transactions. Ses domestiques le quittaient dès la première quinzaine, rebutés par son ton bref et tranchant, ou bien ils s'attachaient à lui d'une façon étonnante, se laissaient peu à peu former et le servaient fidèlement pendant de longues années. Cet homme rigide, laconique, avait en singulière estime le père Félix, qui ne lui ressemblait pourtant d'aucune manière. Depuis 30 ans, ils se connaissaient et s'étaient toujours montrés l'un ouvrier probe, diligent, tout à sa besogne, l'autre maître juste et généreuse à l'occasion. Quant à Madame Renaud, elle avait depuis longtemps fait de Cécile sa favorite. Elle lui ouvrait à deux battants son cœur et ses armoires, lui contait toutes ses affaires, la consultait sur ses confitures et lui donnait à repriser ses plus belles nappes damassées. Elle n'avait pas de fille, mais 4 fils grands et bien portants, dont le plus jeune faisait à l'école polytechnique des études d'ingénieur. Les 3 autres étaient paysans comme leur père. L'aîné dirigeait une petite ferme toute voisine du domaine paternel et l'on supposait qu'il ne tarderait pas à y amener une jeune fermière. Ces 4 grands garçons, vigoureux et de caractère indépendant, tout en restant soumis et respectueux, avaient de bonne heure laissé le giron maternel et Madame Renaud n'avait personne sur qui étendre sa sollicitude de poule couveuse. Aussi, quand Joyeuse Vadien était sous son toit, se donnait-elle le plaisir de veiller sur la jeune fille, de la chaperonner, de la morigéner. Le père Félix avait son oisillon bien en sûreté sous l'aile de la vigilante fermière. C'est pourquoi, deux fois par année, aux fenaisons et pendant la saison du battage, il laissait sa maisonnette, sa chèvre et son jardin aux soins d'une honnête vieille qui ne demandait pas mieux que de vivre pendant quelques semaines dans une abondance inaccoutumée. Cécile faisait un petit paquet de leur linge, mettait son dé dans sa poche, courait dire adieu à ses poules et tous deux partaient gaiement. Quand ils traversaient le village, les voisins les hélaient pour leur souhaiter bon voyage. « Surtout, père Félix, ayez soin de ramener votre joyeuse. Il y a bien des garçons là où vous allez. »« Turellement, turellement, » répondait-il. « Pour ce qui est de ça, elle pousse partout cette engeance, et c'est bien ce qui me chagrine. Mais joyeuse et raisonnable, elle ne s'en laisse pas compter. » Joyeuse ne soufflait mot et se contentait de sourire. Tous ces beaux échevaux qu'elle filait diligemment pendant l'hiver et ces beaux draps blanchis au clair de lune, parfumés de lavande et de romarin, dont peu à peu se remplissait l'armoire, ce trousseau dont elle était fière, faudrait-il le vouer à Sainte-Catherine ?